La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux.
Il n'y a pas d'édito enflammé sur le communautarisme blanc.
De sujets moins sérieux.
Ça peut être des bois sculptés à partir de formes naturelles interprétées.
De ce qui se passe en Ile-de-France.
Je me disais qu'à Paris, on était en avance sur la province.
Et de débats pas forcément consensuels.
Parlez-nous un peu de cette coupe menstruelle.
Tous les jours, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur le 93.9.
Les votants des États-Unis ont fait leur choix et il est bien lourd de conséquences. Donald Trump sera de retour au pouvoir à partir du 20 janvier 2025, midi. Et revient aux manettes de l'État américain pour 4 ans. Il sera ainsi sur la même table de négociation que Vladimir Poutine, Viktor Orban, Giorgia Meloni, Alexander Loukachenko ou encore d'autres personnes qui ont l'air très, mais alors très agréables. Mais finalement, il est présent depuis des années. Et des années. Et des années. Et il ne cesse de faire parler de lui. Le 23 avril 2020, en pleine pandémie, l'ancien président a incité sa population à s'injecter de l'eau de Javel. Son retour est ainsi une bonne nouvelle pour la santé. Le 6 janvier 2021, après avoir perdu les élections face à Joe Biden, il a incité ses partisans à envahir le Capitole, situé à Washington. Son comeback est un green flag pour la démocratie. Le 2 janvier 2018, il a écrit sur X, ex-Twitter, je cite, « Moi aussi j'ai un bouton nucléaire et il est beaucoup plus gros et beaucoup plus puissant que le sien et il fonctionne. Pourquoi ? Pour répondre au leader nord-coréen Kim Jong-un en guerre froide avec la Corée du Sud, alliée des États-Unis. Son revival est une good news pour la paix. Le 1er juin 2017, l'ancien chef de l'État de l'Amérique du Nord a annoncé une sortie des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Reprendre sa place de leader du monde libre est une excellente nouvelle pour le climat. Les électeurs ont fait le choix de réélire cet homme parce que certaines et certains considèrent que, je cite, ce sont juste des mots. Ces mots, justement, je les ai trouvés dans un article du Los Angeles Times. Je cite encore une fois, c'est ce que les spécialistes des sondages appellent la faille de crédibilité. J'imagine que c'est rassurant de se dire qu'il y a des garde-fous de la démocratie comme la Chambre des représentants, du Sénat et de la Cour suprême. Oui, peut-être. Sauf qu'entre 2016 et 2020, Donald Trump a nommé 3 conservateurs à la Cour suprême, dont Brett Kavanaugh, accusé d'agression sexuelle. La population a aussi, et surtout, fait le choix d'une ligne conservatrice, dure, après entre autres l'abrogation de l'arrêt Roe vs Wade. Que ce soit à la tête de la Maison Blanche, les conservateurs sont ainsi les grands gagnants de cette élection. Que ce soit à la tête de la Maison Blanche, la Chambre des représentants, contre 214 représentants rouges, contre 205 démocrates, le Sénat regroupe 53 sénateurs républicains contre 47 et la Cour suprême est composée de 6 juges conservateurs complétés par 3 juges progressistes. Les conservateurs nous montrent ainsi que le monde s'obscurcit et que c'est manifestement pas un problème. Espérons garder encore un peu de lumière ici, au pays des lumières, au pays des droits humains. Vu les 4 prochaines années, je pense qu'on en aura beaucoup, mais alors vraiment beaucoup besoin d'espoir. Ce soir, dans la matinale, on parle de jeunesse et climat. Dans la première partie de l'émission, avec les bénévoles de la rédaction, on fera des tours de table pour traiter les sujets qui nous concernent. Dans la deuxième partie, William recevra Mathilde Rouxel pour le Zoom de l'émission. La directrice artistique du festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec, Anne-Saint-Denis, sera avec nous pour parler du festival. Le Flash Info sera présenté par Juliette, qui nous proposera également une chronique. Et l'émission sera ponctuée d'une autre chronique proposée par Léa. Je pense qu'on est pas mal, non, pour la prochaine heure, non ? Vous écoutez la matinale de 19h de Radio Campus Paris sur le 93.9 en Ile-de-France et on passe tout de suite à l'entretien de la matinale.
La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
Et petite erreur de ma part, non, on ne passe pas à l'entretien de la matinale, mais plutôt autour de table. À moins qu'on va faire en fait des petits entretiens, un peu comme nous, enfin, tous ensemble, toutes ensemble d'ailleurs, beaucoup, on va dire un tour de table très féminin. Ce soir, je serai le seul représentant avec un chromosome X. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir autour de la table Léa. Salut à toi.
Salut.
Est-ce que c'est la première fois que tu parles au micro de Radio Campus Paris en direct ?
C'est la première fois.
Eh ben, c'est incroyable. Bienvenue à Radio Campus.
Merci.
Bienvenue à ce micro-là. Juliette, même question, je crois.
Absolument, oui. Première fois.
Et petit baptême. Petit baptême pour vous deux. Tout va très, très bien se passer. C'est très, très, très bienveillant. Et j'accueille aussi, j'ai le plaisir d'accueillir Alice.
Salut, salut.
Qui, elle, est une fidèle de Radio Campus Paris au micro depuis septembre.
En effet.
Ouais, c'est... qui est une de notre, une de nos responsables, on peut le dire.
En service civique, en responsable.
Service civique.
Si on veut, quoi. J'accueille les bénévoles, les nouveaux bénévoles.
Voilà, c'est ça. On a le plaisir d'être accueillis par Alice dès qu'on arrive à Radio Campus Paris. N'hésitez pas à venir faire un tour et faire de la radio avec nous. Bah, ça fait plaisir de vous avoir toutes les trois autour de cette table-là pour des tours de table, des tables rondes pour pouvoir un peu aborder un thème qui est assez global, jeunesse et climat ce soir. Et j'avais envie de démarrer sur votre rapport au numérique. La première question que j'ai envie de vous poser, elle est un peu brute comme ça, mais si toi par exemple Léa, tu devais décrire ton rapport au numérique, qu'est-ce que ce serait ?
Je tends à diminuer mon temps de numérique dans mon quotidien.
Ouais.
C'est un peu paradoxal parce que mon travail implique le numérique et les écrans, ce qui fait qu'en fait je passe quand même mes journées entières devant des écrans. Mais en tout cas sur mon temps personnel, j'essaye de diminuer ça parce que je me suis rendu compte quand même d'effets négatifs concrets sur moi, mes émotions, ma manière de vivre ma journée, donc j'essaye de diminuer au plus et ça fait du bien.
Ouais. Quand tu dis professionnellement, c'est que tu passes vraiment combien de tu dirais combien de temps?
Ma journée de travail, c'est une journée type qui fait 9h30, 17h30, toute la journée je suis devant l'ordinateur.
Ouais. D'accord.
Voilà.
Juliette, toi ton rapport au numérique?
Bah écoute, je te rejoins un petit peu Léa sur les émotions, moi ça me provoque pas mal d'anxiété, surtout on va dire les réseaux sociaux. Et en même temps, je me dis qu'on a un flux d'informations énorme et on a un peu la chance aussi d'avoir ça, donc c'est un peu à double tranchant, quoi. Mais
Tu le soulignes bien, on abordera ce sujet-là dans la deuxième partie du tour de table.
Okay.
Mais ouais, aussi une réduction aussi de ton rapport numérique.
Ouais, 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 ouais. Bah, j'écoute plus de podcasts que ce que je regarde maintenant sur les réseaux sociaux.
D'accord.
Plus que ce que je vois, ouais.
Ok. Et toi, Alice, alors ?
Bah, les podcasts, c'est marrant que t'en parles parce que moi, c'est quelque chose que pendant le confinement, comme beaucoup de gens, je pense que je m'y suis mise. Mais pour autant, c'est pas quelque chose que j'ai réussi à garder dans ma routine parce que autant je trouve ça hyper intéressant, mais autant la musique, je trouve que c'est un peu le truc facile où quand t'es dans les transports et tout, bah. Ah, il y a telle personne qui vient sortir un album et tout, t'as envie de l'écouter. Et c'est peut-être quelque chose où t'as moins besoin de porter attention que les podcasts. Mais après, bon, voilà, je sais que c'est pas forcément. C'est pas un exemple du tout ce que je dis parce que ça veut dire qu'on a moins besoin. Enfin, qu'on est moins prêt à accorder d'attention à des choses qui peuvent être intéressantes comme des podcasts, quoi. Mais on veut plutôt se laisser bercer par la musique et tout. Après, ouais. Ça dépend des moments, mais en tout cas, ce rapport au podcast. Vu que t'en parlais, c'est plutôt ça de mon côté.
Toi, la musique, le podcast, tu le mets dans le numérique ?
En tout cas,
rapport,
c'est une bonne question.
Ouais.
Ouais, c'est vrai.
Non, c'est.
Bah, disons que t'es quand même, tu choisis ta thématique, tu t'es sur ton téléphone, quoi, pour le choisir. Et mais je pense que vu que justement il y a moins ce côté visuel que une musique peut avoir avec un clip, ben c'est moins quelque chose vers lequel je vais spontanément. Parce que j'aime bien aussi le côté visuel de tout ce que la musique peut apporter et tout. Et du coup, bah là, c'est là où le numérique, enfin, et le téléphone, l'interface écran est importante. Mais ouais. Même la radio et tout, je sais que j'en écoute pas tant. Paradoxalement.
Ah. Je rejoins beaucoup Juliette et Léa sur leur rapport au numérique. Je prône la sobriété numérique, vraiment. C'est-à-dire que je sais que le soir, j'ai une vraie hygiène numérique. Quand je rentre chez moi, j'essaye vraiment de calmer petit à petit. Et c'est vrai que, par contre, je suis un aficionado de la radio, d'où le fait que je sois là. Je suis très radio, je suis très podcast, je suis très musique. Mais par contre, ouais, je calme vraiment le jeu. Là, je me remets progressivement aux réseaux sociaux, mais pendant quelques années, j'avais vraiment calmé le jeu parce que justement, j'avais besoin de prendre un peu du recul sur cette quantité de choses qu'on peut voir. Ouais.
Après, les réseaux sociaux, je pense que ça dépend vachement de la manière aussi dont t'entraînes ton algorithme. Mmh. Parce que typiquement, bon, après, en réseaux sociaux, moi, je suis plutôt sur Instagram. Et en fait, enfin, moi, j'ai fait des études artistiques de mode et tout. Et du coup, le visuel, pour le coup, il est hyper important. Et puis même. Enfin, c'est pour ça que les réseaux sociaux, moi, j'aime bien quand même comme moyen à la fois d'information, mais ça, on reparlera après, mais aussi pour vraiment avoir... C'est un peu mon LinkedIn, j'ai l'impression que c'est aussi là.
Bah oui, selon les secteurs, c'est vrai que
c'est, ce que j'allais dire,
c'est un peu à double tranchant.
C'est ça.
C'est sûr. Mais je pense qu'on on sent quand même qu'on gagne en maturité par rapport aux réseaux sociaux. Ça y est, on a du recul là où avant on était adolescent.
C'est la question que j'avais envie de vous poser. C'est quoi votre rapport aux réseaux sociaux de manière générale?
Moi, je me sens gagner en maturité. J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui s'étend de plus en plus. On comprend que c'est un algorithme, on comprend qu'on doit le façonner, que parce qu'on regarde tel profil ou parce qu'on regarde telle vidéo, ça va nous induire vers tel contenu. Enfin, en tout cas, moi, je sens que je comprends mieux la mécanique, donc je l'utilise mieux.
Ouais.
Donc je me, entre guillemets, protège plus de tous les effets négatifs qui peuvent découler d'une mauvaise utilisation.
Ouais.
Et j'ai l'impression que les jeunes générations commencent aussi à comprendre ce fonctionnement. Donc, dans un certain côté, c'est rassurant.
D'accord. Toi, Juliette, par rapport à ce que Léa vient de dire ou ton rapport au réseau?
Moi, je crois qu'il y a un an, j'ai fait un grand nettoyage d'Instagram. Tous les comptes où je pouvais me comparer ou juste me flageller pendant des heures après, j'ai tout supprimé et maintenant, je suis des contenus qui me font du bien, enfin, qui me font du bien, qui m'intéressent, on va dire, dans lesquels je me compare pas. De la vulgarisation, par exemple, ou des infos, mais des infos un peu, en général, c'est un peu satirique, du coup, c'est pas trop angoissant, on va dire. Mais c'est vrai que pendant un temps, les réseaux sociaux, c'est une grosse source d'angoisse.
Tu m'étonnes.
Mais là, ça va mieux, du coup. J'ai fait des choix.
Toi, Alice, ton rapport, il est strictement artistique avec les réseaux sociaux ou c'est un peu plus divers quand même?
Non, à la fois, ça m'inspire beaucoup de voir d'autres personnes. Et en fait, ça me pousse, un peu comme tu disais, Juliette, ça me... Au lieu d'avoir un rapport aux autres gens qui sont que je suis et tout, de comparaison, plutôt ça m'inspire et je me dis en fait tout le monde est humain au final, tout le monde fait caca et puis il se lave les dents et enfin fait des trucs basiques quoi. Ouais. Et du coup je me dis c'est aussi pour ça où l'impression il y a moins cette starification. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois, que Léna, situation ou des gens qui peuvent être très très suivis, après, elle est particulière parce qu'elle prône justement
la sobriété.
C'est ça. Et puis surtout, le fait d'être comme tout le monde. Enfin, pas forcément la sobriété.
Ah, pas forcément.
Mais
pas bon
en
terme.
Tout cas, le fait d'être comme tout le monde et telle qu'elle est, elle se maquille pas forcément.
Ouais.
Et pour autant. C'est ça. Elle est elle est moins dans le conformisme que peut-être à l'ère dans les années 2000, quand il y avait les magazines et tout, c'était que des photos, ou dans les. À la télé et tout, mais du coup où l'image était hyper importante, et là sur les réseaux l'image en fait c'est de se dire qu'à la fois elle peut être hyper traitée, à la fois elle peut être vraiment léchée, hyper bien anticipée, et à la fois on peut vraiment se dire les couilles, je me mets comme je veux et tout, on s'habille comme on veut, etc. Et du coup c'est là où je trouve que c'est hyper intéressant, important, et puis où moi ça m'inspire, c'est de me dire autant j'ai envie de faire des contenus un peu précis, un peu beau, esthétique et tout, ok, et à la fois c'est pas ça qui fait qui je suis pour autant, et c'est de dire qu'il peut y avoir une multiplicité de choses à voir, à être là-dessus, et une fois que je trouve on se détache un peu de je suis ce que je vois, je suis en tant que personne ce que je montre à voir, je trouve que j'ai l'impression d'avoir un rapport un peu sain à ça.
Donc finalement, de ce qu'on retient, c'est une hygiène liée au numérique.
C'est une réflexion aussi.
C'est une réflexion complètement.
C'est un chemin, c'est dur d'être directement dans le...
Ouais. Merci à toutes les trois pour ce premier tour. On marque une petite pause. Elle retourne à la radio. On revient juste après ça. I've been trying to get to you, pero no me respondes. Don't know what I'm gonna do, es complicado, no sé. They all want a piece of you, pero tú me conoces. Tell me when you coming through. Todo lo que tengo eres tú. Todo lo que tengo eres tú. Baby, I don't need nobody else but you. Todo lo que tengo eres tú. Baby, todo lo que tengo eres tú. Yeah, oh, why you run all over my heart? Yeah, oh. Well, you know I'm playing my part. I need you to play the game with me. Guess I feel lonely without someone. Te envié un mensaje. Me estás ignorando o lo olvidaste. Si quieres amor, lo encontraste. Tengo bastante pa' ti, bastante. I've been trying to get to you, pero no me respondes. Don't know what I'm gonna do. Es complicado, no sé. They all want a piece of you, pero tú me conoces. Tell me when you're coming through. Porque todo lo que tengo eres tú. I don't need nobody else but you.
got my heart going whoa, 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 whoa. They all want a piece of you, pero tú me conoces. Tell me when you're coming through. Todo lo que tengo eres tú. Todo lo que tengo eres tú. I'm saying I don't need nobody else but you. Todo lo que tengo eres tú. Baby, todo lo que tengo eres tú.
Tout de Ethan Dio sur Radio Campus Paris à 19h16, vous écoutez La Matinale.
La Matinale de 19h.
De retour à la table de La Matinale ce soir, qui prend le temps de s'intéresser donc à nous, la jeunesse, et au climat. Et pour ce deuxième tour de table, je vous propose de nous intéresser à l'information. Donc question un peu générale comme ça, quel est votre rapport à l'information? On a commencé à en parler. Juliette, je veux bien que tu reprennes sur ce sujet-là. Ouais, tu avais commencé un peu à amorcer ça.
Bah ouais, disons que... moi, la politique, c'est peut-être un truc. Enfin, c'est un truc qui m'intéresse et m'énerve énormément. Du coup, je fais le choix d'écouter de la satire politique. Du coup, je m'informe et en même temps, je rigole énormément parce que l'actualité est souvent très drôle. Et ça, mais en fait, ça évite. Ça
Donald
évite,
Trump.
Par exemple, comme ton édito, ça évite d'être trop en colère, ouais. Et en même temps de continuer à s'informer, donc de pas non plus être dans le déni.
Là, si t'as 2-3 exemples à nous donner.
Bah anciennement France Inter et maintenant bon, ils sont plus sur Radio Nova, mais les podcasts aussi de France Culture, bon, certains sont pas tous très très drôles, ça c'est pas vrai, ouais. Mais qu'est-ce que j'ai d'autre comme exemple, bah les Incultures de Franck Lepage par exemple, je sais pas si vous connaissez, ouais. Il fait des conférences gesticulées, c'est un peu drôle et en même temps ouais. Beaucoup d'informations.
Pour préciser ce que tu dis, c'est la dernière sur Radio Nova de 18h ouais. À 20h le dimanche.
Absolument, c'est ouais. Ça.
Et toi, Léa ?
Moi, j'ai décidé de mettre en place des outils qui me permettaient de un petit peu organiser toutes les parutions d'articles du jour. Ce qui fait comme ça, j'ai tout centralisé en ouais. Une seule plateforme et je peux ensuite choisir en fonction chouette. Des titres et des médias ce que je veux lire. Mm-hmm. Parce que je trouve que Internet, c'est beaucoup trop vaste. Et moi, je me ouais, perds et une porte en ouvre 10 000 et c'est l'enfer. C'est l'enfer. Mm-hmm. Et donc, du coup, j'ai réussi à trouver ces outils-là qui me permettaient de tout centraliser sur une seule plateforme. Et ensuite, c'est mon petit catalogue. Je choisis, je lis quand j'ai le temps. Et j'avoue que ça, c'est hyper pratique pour le coup.
Une plateforme, je crois avoir vu la pub dans le métro, c'est une plateforme qui rassemble tout et après en fonction des
sources. Oui, il y en a plusieurs qui existent. Plusieurs. J'avoue okay. Que j'ai pas vu celle de la pub du métro, mais ça se développe de plus en plus justement pour okay. Pallier à ce problème de trop étalé, on sait même plus où aller. Ouais, voilà, c'est ouais. Ça.
Et toi, Alice ?
Mes sources de
comment tu t'informes ouais. Quel est ton rapport à l'information ? Est-ce que déjà t'es un peu éloigné parce que tu te dis ouais, c'est anxiogène de fou ? Après là t'es à la matinale donc c'est un peu différent.
Bah donc là ouais c'est plus stimulant la matinale parce que forcément il y a des intervenants et intervenantes qui viennent donc on a directement des personnes qui s'y connaissent quoi. Donc celle-là c'est un peu la solution un peu ouais. la position un peu privilégiée d'avoir vraiment l'information qui vient à soi. Mais pour autant au quotidien, je dirais que je m'informe principalement, bon ça va faire débat dit comme ça, mais sur Instagram. Mais en fait, je pense qu'en sélectionnant vraiment les personnes qu'on suit, on peut vraiment avoir des idées hyper variées. Et autant des contenus, enfin des comptes comme Brut, qui font vraiment, je trouve, un travail d'information hyper large, hyper varié, ils couvrent des sujets hyper diversifiés, même combinés, voilà, un peu différemment, mais voilà, sur le même sujet. Et après, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui très médiatisées, par exemple Nesrine Slaoui, que j'aime bien citer parce que justement, elle est hyper intéressante et inspirante. Je ne sais pas si vous la connaissez, Léa, Juliette, Fabrice.
Ça ne me dit rien, j'avoue.
De loin, okay. Ouais.
Bah, c'est une journaliste, moi je pense qu'on va définir comme ça, qui a écrit un livre récemment justement sur le féminisme anticolonialiste et de dire que, bah, en fait, en tant que femme maghrébine, elles sont doublement soumises au...
À l'intersection.
À l'intersection.
Elles sont à l'intersection des discriminations menées aux femmes.
Elles en cumulent plusieurs.
Voilà. Ouais.
Et du coup, ouais, sur ces questions-là de décolonisation et tout ça, c'est des sujets qui m'intéressent. D'accord. Et voilà, du coup, je pense qu'en fonction des médias qu'on suit, il y a l'actualité aussi et des idées qui nous enrichissent au fur et à mesure.
pour un peu enrichir un peu cette discussion là, ma source d'inspiration elle est peut-être un peu particulière, mais j'utilise beaucoup le Courrier International. Ça fait des années que je suis abonné au Courrier International. Ça me fait du bien parce que de base, on va dire, dans mon éducation à la formation, j'étais très détaché de la France. C'était un peu indigeste pour moi, la politique française, et le fait de regarder un peu ce qui se passait un peu à l'étranger, ça m'a fait du bien. Et dès que j'ai découvert le Courrier, ce qui est cool, c'est que déjà il y a un point de vue étranger sur ce qui se passe en France, mais il y a aussi l'actu ailleurs. Et c'est très rafraîchissant de pouvoir déjà lire un panel d'articles. Ça va de la culture, ça va à l'économie, ça va, enfin, de belles infographies, etc., faites par le Courrier. Et puis vraiment, ça permet un peu d'avoir l'application dont tu parlais, Léa, tout à l'heure. Ce truc où un peu tu as un peu tout en un, donc tous les, je dis pas tous les journaux du monde, mais des journaux de référence, et puis d'autres aussi. Plus l'hebdo qui paraît chaque semaine, avec ce croisement un peu de points de vue. Voilà, c'est un peu ma source, et ça me permet, je pense, aussi de gérer le flux d'informations.
Est-ce que tu le reçois sur papier, ou est-ce que tu le lis sur ton téléphone ou iPad ou quoi?
Je pense qu'il y a un moment, j'ai essayé de faire papier et j'ai pas réussi, très honnêtement. D'accord. Parce qu'il arrivait toutes les semaines. Et maintenant, je le fais sur mon téléphone, et j'essaye aussi de prendre le temps. Alors, à la matinale, j'utilise vraiment cette source d'informations là quand j'ai besoin vraiment de m'informer, par exemple si je fais des flash infos ou quoi. Mais sinon, c'est vraiment le site web. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, après on va lancer la musique, c'est que je n'ai pas l'application. Je n'ai pas l'application parce que j'ai une espèce d'automatisme qui se met en place quand j'ai une application. Et je voulais absolument vraiment m'informer via le site web.
D'accord.
Donc voilà.
Bon, une diversité de médias d'information, du coup, ouais, pour nous tous. Podcast et tout.
Ce qui est chouette, ça donne des idées à nos auditrices, auditeurs. On va faire à nouveau une nouvelle pause. Merci à toutes les trois pour ce tour de table qui était un peu dédié à l'information.
Qui on passe toujours juste aussi
après.
Vite.
Qui passe toujours aussi vite. 19h22, c'est vrai. On revient juste après ça.
Je l'ai vu dans tes yeux, tu n'étais pas indifférent. Et c'est injuste, sans juste milieu. Tu me fais voler dans le vent. J'ai dansé mille et une nuits pour ne pas te défaire de moi. Mais où vas-tu après minuit quand je ne danse pas sous tes doigts? J'ai troqué sur ma vie toutes mes larmes pour toi. J'ai toujours eu envie d'un seul pour toi et moi. J'ai laissé mes rengaines. Je prendrai ta peine. Silence dans le cœur qui se dessine dans le désert. Aime-moi dans le désert, sois le protecteur. Aide-moi à me défaire du silence dans le cœur. Aime-moi dans le désert, sois le protecteur. Aide-moi à me défaire du silence dans le cœur. Respirer mon air ne te suffit malgré les grains du sablier. Où étais-tu après minuit? Où étais-tu à l'heure où c'est? J'ai entendu à la fenêtre malentendu mensonge peut-être. Je t'attends sous les étoiles. Aime-moi dans le désert, sois le protecteur. Aide-moi à me défaire du silence dans le cœur. Aime-moi dans le désert, sois le protecteur. Aide-moi à me défaire du silence dans le cœur. Aime-moi.
Alice et Maïwenn ont décidé de nous faire danser ce soir, Désert de Caroline.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
19h25 dans la matinale de 19h de Radio Campus Paris et on est déjà au dernier tour de table.
Déjà.
Ouais, avec Juliette, Léa et Alice. Et Juliette, je te relaisse la main.
Ouais, bah du coup moi je voulais rebondir sur ce que tu venais de dire Fabrice par rapport au courrier international, ouais c'est ça.
Effectivement.
Que
ouais.
Moi c'est totalement l'inverse de toi, c'est-à-dire que je suis totalement déconnectée de ce qui se passe à l'international. Parce qu'en fait à chaque fois j'ai l'impression quand je lis des trucs ou que je regarde des vidéos que j'ai aucun code, aucune référence, aucune notion de qui est cette personne, de où ça se trouve, de quels sont l'état des législations dans ces pays-là, etc. Et du coup ça fait beaucoup trop d'informations à aller chercher, genre je suis obligée à chaque fois ouvrir une autre page pour savoir qui dit ça et pourquoi, etc. Et du coup j'avoue que j'abandonne très vite l'information de l'international.
Ouais, ce rapport à l'information, vraiment ce flot d'informations. Ouais. Ali, je te laisse reprendre la main.
Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que en fait face à ce flot d'informations, comme on disait tout à l'heure, c'est facile de se perdre, je trouve, et je pense qu'on se perd tous un peu entre relayer des infos et après on se rend compte que en fait c'est des fake news. Enfin, je pense que ça arrive à plein de gens, ou alors qu'ils s'en rendent pas forcément compte. Et c'est justement ce recul-là qui peut être un peu dur. Et je pense qu'il y a beaucoup aussi de gens qui se découragent face à tout ça en se disant bah en fait le monde va mal. Et plus il y a des infos qui arrivent, plus ça va mal. Et ça, voilà. Et quand on voit les réchauffements, les degrés, tout ça qui s'accumulent d'année en année.
Et ça, je l'entendais déjà, ça, il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Pourtant, je suis pas vieux. Mais déjà, il y a 15 ans, c'est dingue. Au collège, au lycée, on parlait déjà de ça. Collège, lycée. De trop d'informations, trop tristes, du climat, ça va pas. On entendait déjà ça.
Et après, je trouve que ce qui est un peu dangereux, c'est d'être vraiment dans le désespoir et de se dire, quoi que je fasse, ça change rien. Puisque factuellement, dans ce qu'on nous présente, c'est vrai que c'est pas moi, Alice, à ma petite échelle, ou toi, Fabrice, ou peu importe qui allons changer la face du monde, a priori. Et pour autant, je trouve que, en fait, toutes les associations qui font bouger les lignes, qui viennent en aide, qui pallient le manque de certaines politiques, etc., et ben c'est vraiment nourri par des acteurs... random, quoi. C'est tout le monde et n'importe qui en devenant
bénévoles.
Dans des associations à Radio Campus, en relayant de l'information, en étant à Emmaüs ou peu importe. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça qui fait du sens, c'est de transformer l'information et peut-être cette paralysie que ça peut provoquer en action, mais c'est compliqué, quoi. Mais voilà. Est-ce que vous, il y a des actions avec eux? Qu'est-ce que ça vous...
Pour aller un peu dans ta continuité, je suis d'accord que c'est un peu tout le monde et n'importe qui peut agir, mais on se rend quand même compte qu'il faut beaucoup de tout le monde et beaucoup de n'importe qui pour qu'il y ait de l'impact. Et c'est un peu toujours cette question-là qui est de je m'engage, mais où, quand, comment je fais pour qu'à mon échelle je sois vraiment efficace, ou du moins que j'arrive à faire quelque chose de concret. Et c'est ça aussi du coup qui est difficile à gérer. En tout cas, pour moi, c'est que non seulement il y a un gros flux d'informations, mais il y a un nombre énorme aussi d'associations qui agissent tous pour tellement de sujets et de tellement de manières que du coup, comment je peux pas me dédoubler, me détripler, où est-ce que je vais?
Plus les lieux qui accueillent au même endroit, au même moment, plein d'assos qui font plein de choses en même temps pour des sujets différents.
Couper, puis après séparer, c'est tout un monde, mais c'est vrai que comme pour l'actualité, en fait, il faut prendre le temps de se plonger dedans et de s'informer et d'aller à la rencontre des gens, et ça, si on prend pas le temps, malheureusement, je pense qu'on peut pas avoir une action associative vraiment impactante.
Juliette, par rapport à ce qui vient d'être dit.
Mais justement, je trouve qu'il faut pas attendre de se sentir légitime, je pense, pour aussi se lancer dans un truc. C'est pas parce qu'on n'a pas fait Sciences Po, HEC ou l'ENA, qu'on n'a pas une voix qui compte et qu'on peut pas faire quelque chose. Je pense que, moi, je me suis très longtemps senti illégitime et du coup je m'engageais pas forcément et en fait j'ai compris que c'était pas obligatoire quoi d'avoir fait 10 ans d'études pour pouvoir juste dire quelque chose qui peut me toucher et qui peut pas toucher le voisin, voilà quoi.
Et surtout, je pense que dans tous les cas, comme tu disais bien, Léa, il y a tellement à la fois d'informations qui nous viennent et à la fois de solutions, en fait, face aux problèmes, enfin, de pseudo-solutions, tout ce qui est asso et tout, il y en a une tonne. Et du coup, après, le plus dur, c'est de faire.
Non, solution, peut-être pas pseudo-solution, juste solution après.
Plus ou moins palliative, quoi.
Plus ou moins palliative.
Oui, action. Action. Et du coup, peut-être que, comme tu disais aussi, Julia, je trouvais ça intéressant de déculpabiliser aussi et de se dire qu'en fait, Je pense que tant que soi-même on est intègre avec soi, on se dit bah ok, là je peux pas tout faire. Donc si ce qui m'importe c'est l'écologie ou lutter contre les violences faites aux enfants et tout, et ben ok, je me focalise peut-être sur un truc ou même d'en parler autour de soi. Pour moi c'est déjà une action, c'est déjà sensibiliser les gens. C'est pas forcément quelque chose qui prend un engagement 4 heures par semaine et tout, mais voilà, je pense que tous à notre échelle, on agit quoi qu'on en pense.
Oui, c'est clair.
Il est déjà 19h30 et c'est déjà très très court, le temps a filé à une vitesse. Je vous avoue, j'aurais bien voulu continuer cette conversation-là.
Après l'émission.
Ouais, après l'émission, ouais. Je pense qu'on aura encore beaucoup de choses à dire. Merci Ali, Juliette, Léa, toutes les trois, pour ces trois tours de table.
Merci à toi pour l'animation.
Merci. Ouais. Juliette, on reste avec toi pour le Flash Info.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Amsterdam. Des supporters du Maccabi Tel Aviv ont été violemment pris dans les rues d'Amsterdam dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 novembre, en marge de la rencontre de Ligue Europa du football entre le club de la ville, l'Ajax Amsterdam, et le club israélien. 5 personnes ont été brièvement hospitalisées, nous informe le magazine Le Monde. Nous avons l'habitude, comme souvent dans les médias et journaux, il y a très peu de contexte. Mais comme je suis dotée d'une générosité d'âme, je me permets de vous décrire le contexte. En cherchant bien, on peut trouver la vidéo du drapeau palestinien brûlé par les supporters du Maccabi Tel Aviv, tandis qu'un groupe de personnes criait « Fuck you Palestine » ou encore « Laissons Tsahal gagner pour finir les Arabes ». Mais bien sûr, ce qu'on retiendra de l'article du magazine Le Monde, c'est, je cite, « une explosion d'antisémitisme qui n'avait pas été vue depuis longtemps ». VSS, l'ancien joueur et capitaine de 34 ans Wissam Ben Yedder a été condamné à 2 ans de prison avec sursis pour agression sexuelle sur une jeune femme de 23 ans. Quant à la victime, elle écope de traumatisme à perpétuité. Il rejoint donc la liste des 200 ou 300 personnalités publiques condamnées pour violences sexuelles. États-Unis. Donald Trump dévoile les premiers noms de la future administration. Élise Stefanik a notamment été nommée future ambassadrice à l'ONU. À noter que diplomatiquement, la jeune femme est connue pour soutenir la politique du gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou. Tandis que Poutine et Trump ont déjà commencé à discuter du conflit selon le Washington Post. Donc, Voldemort, Dark Vador et Sauron sont en train de préparer l'avenir. Soyons rassurés. Horreur toujours, la nouvelle ministre de l'Éducation, Anne Genetet, proche de Gabriel Attal, reprend ainsi l'une des mesures les plus marquantes de sa politique de droite et de « quand on veut, on peut », la transformation du brevet des collèges en un examen obligatoire pour entrer en seconde. Solidarité, les vidéos émouvantes de centaines de volontaires venus apporter leur aide pour nettoyer les dégâts provoqués par les inondations meurtrières nous rappellent que l'heure n'est plus à l'attente des aides gouvernementales, mais bel et bien de la solidarité et de l'autogestion.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Merci Juliette pour ce flash info et la matinale se poursuit après une pause musicale. À 19h33, nous écoutons Heat Wave de Twin Blade.
To the wave, always my memories fade. With you in the shade is where I'll stay. All day, embalmed in gold rays, I swim in your gaze. Let's hide away. Is it you? Is it me? Do you dream?
soir dans la matinale après trois tours de table très intenses sur la jeunesse et les climats. 19h36 sur Radio Campus Paris, vous écoutez la matinale de 19h.
Oh là là, mais pas une connexion de merde.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et la première chronique de la matinale, c'est celle de Léa. Alors, est-ce que tu es toujours déjà en forme?
Moi toujours, bien sûr.
Est-ce que t'as apprécié la première partie là?
J'ai fortement apprécié la première partie, les sujets étaient très intéressants.
Eh ben c'est très très cool, de quoi tu vas nous parler?
Eh bien je vais faire suite au Flash Info de Juliette. Ouh. Pour parler d'éducation. Les premiers résultats des évaluations nationales des 6e, 4e et 2e sont tombés la semaine dernière et pour la plupart ils sont qualifiés d'inquiétants. Français et mathématiques, voici les deux matières évaluées pour tous les élèves du secondaire concernés en France. L'objectif de ce test géant, obtenir un panorama global du niveau des élèves en France, en vue d'adapter ensuite les dispositifs du système scolaire. Seulement, les résultats n'ont pas eu les effets escomptés. On dénote peu ou pas de progression entre la 6e et la 4e. Une fois les lacunes présentes dès le jeune âge, il semble difficile de les corriger ensuite. On dénote également des disparités de genre à tous les niveaux. Les garçons obtiennent en masse de meilleurs résultats en mathématiques, là où les filles sont plus à l'aise en français. C'est encore d'actualité. De nombreuses disparités existent également entre les catégories de filières. Les filières générales et technologiques ont un meilleur taux de bonnes réponses que dans les filières professionnelles, et ce pour les deux matières, c'est-à-dire français et mathématiques. Du positif, en revanche, est à noter pour les établissements en réseau d'éducation prioritaire, les REP+. Le rapport relate une amélioration du niveau en mathématiques et en français pour les sixièmes. Et selon le ministère, cette évolution serait une des conséquences du dédoublement des classes de CP et CE1, initié un petit peu plus tôt en 2017. Mais alors, que penser de ces résultats? Ces disparités accrues témoignent d'une école française encore hétérogène. Le niveau de connaissance dépend toujours du secteur d'éducation, du type de filière et du genre. Des résultats donc peu concluants, surtout au moment du lancement de l'acte 2 du choc des savoirs, annoncé aujourd'hui par la ministre de l'Éducation, Anne Genetet. Après avoir instauré à la rentrée le dédoublement de tous les niveaux de primaire dans les zones prioritaires et la mise en place des classes prépa seconde, permettant de préparer les élèves n'ayant pas eu le brevet à entrer au lycée, le ministère continue sa lancée pour, je cite, « relancer l'ascenseur scolaire ». Ainsi, il prévoit de conserver les groupes de besoin pour les 6e et 5e, de rendre le brevet, comme disait Juliette, obligatoire pour le passage en seconde à partir de 2027, et il prévoit aussi, et ça c'est une bonne nouvelle, de recruter plus de moyens humains dans l'éducation nationale. De leur côté, les professeurs sont en grande partie contre le système des évaluations nationales qu'ils jugent peu adapté à la réalité éducative et aux émotions des élèves. Alors, carence ingérable ou dispositif d'évaluation peu adapté, quoi qu'il en soit, l'éducation reste au cœur des débats d'actualité et promet encore de nombreux changements à venir. La suite, à suivre.
Je me dis, assure, mais je me dis, est-ce que c'est peut-être pas mieux ici qu'aux États-Unis? Parce que Donald Trump, qui a été élu, veut juste tout simplement supprimer le ministère de l'Éducation nationale. Bon, il faudra méditer sur cette question-là. 19h40.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Le Zoom de ce soir, c'est avec toi, Willem. Tu vas bien?
Merci, oui, j'avais bien.
Ah bon, bah tant mieux, je te laisse la main.
Oui. Bonsoir, Mathilde Rouxel, que nous allons... Bonsoir.
Bonsoir, Mathilde Rouxel. Est-ce que vous
nous
entendez? Ah, super. Très
oui,
bien.
Bonsoir.
Merci à vous d'être
au
micro de Radio Campus Paris. Je vous laisse, Willem.
On est avec Mathilde Rouxel ce soir pour le festival franco-arabe de Noisy-le-Sec et sa 13e édition qui se déroule le 15 au 30 novembre, au Trianon le 20 au 24. Bonsoir, Mathilde.
Bonsoir.
Vous avez l'année dernière saisi le poste de directrice artistique pour le festival franco-arabe de Noisy-le-Sec. Êtes-vous satisfaite d'avoir rejoint ce festival?
Oui, bien sûr. Pour moi, c'est une façon de pouvoir diffuser une culture qui m'intéresse beaucoup et qui, je pense, est trop mal connue en France. Et avoir le privilège de pouvoir développer des dialogues à travers le cinéma, je pense que c'est quelque chose de très important et de très démocratique.
Le choix de Gaza comme focus de cette 13e édition nous semble évident au vu de l'actualité chaude. Est-ce que vous pouvez malgré tout justifier ce choix?
Alors oui, je pense que le choix de Gaza se justifie par lui-même dans la mesure où effectivement c'est une actualité qui dure. Hein, ça fait déjà plus d'un an que le génocide est en cours. Aujourd'hui, les attaques israéliennes touchent le Liban, donc c'est vraiment des questions qui s'actualisent au quotidien. Et c'est malgré tout des imaginaires qu'on arrive très peu à développer, des territoires qu'on connaît pas, et que le cinéma a pu filmer. Et ce cinéma-là, c'est un cinéma de patrimoine finalement, où on voit des images de rues, de paysages qui ont disparu. Et c'est pour nous très important de pouvoir aussi recréer cette mémoire-là et de pouvoir la discuter avec des spectateurs français.
Eh bien, en parlant de territoire, vous avez évoqué l'année dernière une volonté à créer du dialogue autour de la politique et de la symbolique. Votre décision de porter ce festival en plein air est-elle en continuité avec ces ambitions ?
Oui, évidemment. Je pense que c'est de toute façon l'ambition originelle du festival. On a cette chance cette année de pouvoir développer aussi, d'avoir pu développer davantage dans les murs. Et on est sur un territoire beaucoup plus vaste. On passe plusieurs séances à l'Institut de culture d'islam aussi. On a une programmation de documentaires, de fiction, etc., qui permet aussi d'atteindre ces buts politiques, je pense. Et effectivement, il me semble que c'est aussi la raison pour laquelle Noisy-le-Sec maintient ce festival. Et cet événement est un événement important pour la ville et je pense aussi pour les spectateurs qui le suivent depuis 13 ans.
Avec son exposition Roma, mon enfance en Algérie, Salim Zerouki, vous faites un contrepoint sur la programmation du cinéma. Est-ce que vous avez eu un petit coup de cœur pour l'artiste et sa BD ?
Je pense que de toute façon, le roman graphique complète évidemment les propositions cinématographiques. C'est de l'image aussi, c'est du récit. C'est une autre approche évidemment au récit et à l'image. Et le roman graphique de Salim Zerouki raconte aussi une histoire de l'Algérie qu'on connaît finalement assez mal en France, et d'un point de vue à la fois drôle, très personnel et aussi très politique. Et donc, du coup, c'était un peu une évidence pour nous de pouvoir le mettre à l'honneur au Trianon, donc au sein du cinéma, mais aussi à la Microfolie, pour des publics variés qui vont de l'enfance à n'importe quel spectateur qui serait intéressé à découvrir ce mode de récit.
Ces publics variés qui font la diversité du festival. Vous en avez parlé l'année dernière comme la richesse de cet événement. Quels sont les moyens de direction artistique que vous mettez en place pour mettre en lumière cette diversité ?
À Noisy-le-Sec, j'ai la chance de travailler avec différents acteurs du territoire. On travaille effectivement avec les programmateurs de tous les établissements de Noisy-le-Sec. On a énormément de partenaires aussi, AS Ensemble notamment. Donc c'est aussi un partenariat avec ces programmateurs-là qui ont l'habitude de programmer tout au long de l'année avec leur public des événements variés. C'est déjà une façon de procéder qui permet de s'inscrire vraiment dans le territoire. Et par ailleurs, il y a une recherche évidemment constante, quotidienne finalement de ce qui existe et de ce qui se produit dans les pays arabes. Et c'est quelque chose qui me semble être un engagement important. Et qui permet aussi de créer un dialogue différent avec les publics entre des productions qui peut-être n'auraient jamais pu être montrées en France et des publics qui n'auraient jamais pu rencontrer ces réalisateurs ou ces artistes.
Et bien justement, à propos des difficultés à accéder aux films qui pourraient être difficile d'accès, quels sont les moyens techniques qu'on peut mettre en place sur le territoire, à l'étranger comme en France, pour pouvoir y avoir accès et permettre aux gens de tous les jours, enfin ceux qui ne sont pas concernés forcément par ces mouvements, d'y avoir accès?
Je pense que les festivals sont une plateforme essentielle en fait à ce titre-là, et que c'est peut-être la raison pour laquelle les festivals continuent à proliférer, parce qu'il y a beaucoup de festivals de musique, de cinéma, d'art plastique, de BD aussi, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est des arts qui aussi ne s'imposent par l'intérêt de ce qu'ils portent, et que c'est peut-être notre travail à nous en tant qu'acteurs culturels de pouvoir créer ce lien, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres liens.
Allô, oui, Mathilde Rouxel, est-ce que vous nous entendez ? On a été coupé, on a été interrompu, Willem, par rapport à ce dont on parlait. Donc on parle là du festival du film franco-arabe à Noisy-le-Sec. On le rappelle, il y a une grosse partie qui est sur Gaza. Il y a une grosse partie qui est sur Gaza, mais aussi sur l'Algérie. Le festival ne se compose pas seulement. Mathilde Rouxel, est-ce que vous nous entendez ?
Oui, je vous entends.
Ah, ça, c'est les caprices des réseaux. Ce sont des choses qui arrivent. Je vous le relaisse avec Willem.
On rappelle donc la question qui était: comment est-ce qu'on peut faciliter la transmission en France de ces films difficiles d'accès ?
La transmission, elle se fait par la rencontre avec les artistes, je pense avant tout. Et l'avantage des festivals, c'est qu'on crée des moments, des rendez-vous et des temps forts qui permettent aussi à ces artistes-là, qui par ailleurs souvent ne peuvent pas forcément facilement voyager, de rencontrer des publics qui sont différents de ceux auxquels ils sont habitués aussi, et de créer des dialogues complètement nouveaux. Et c'est à travers ces festivals-là que ce dialogue-là se crée et que les films deviennent visibles. Et souvent, ça peut créer aussi des curiosités qui peuvent conduire à d'autres. Ça peut faire un effet boule de neige et générer vraiment de nouvelles études, de nouvelles volontés de programmation, des curiosités, des volontés de voyage aussi. Et voilà, je pense que vraiment particulièrement le cinéma permet de développer de nouvelles façons de concevoir le monde aussi, et que la rencontre avec les réalisateurs est essentielle dans ce travail-là.
Des réalisateurs et des petites créativités qui sont donc regroupées au sein d'un concours et des projets sélectionnés. Sans trop nous en révéler, est-ce que vous avez eu un petit coup de cœur de votre côté ?
J'en ai eu 7 sur le projet. Non mais vraiment, c'est le principe de la compétition, et c'est toujours quelque chose de compliqué à défendre, parce que c'est pourquoi juger finalement des œuvres qui ont généralement toutes été accouchées dans la douleur aussi de l'acte de création. Et tout le monde a envie de montrer son film. On a reçu énormément de propositions, près d'une centaine. Et en sélectionner pour faire une seule séance, c'est difficile, mais ce sont tous des projets très intéressants, des projets qui ont aussi été créés beaucoup en exil, c'est-à-dire qu'on a sélectionné plusieurs projets de cinéastes issus des pays arabes, mais qui vivent aujourd'hui à Paris ou en région parisienne, et qui avaient une proposition à nous faire aussi, qui raconte un peu leur exil. Et je pense que c'est aussi des problématiques qui sont très importantes à aborder aujourd'hui en France. Donc voilà, j'espère qu'ils seront là, qu'ils seront présents, et j'espère qu'on aura aussi l'occasion de pouvoir dialoguer avec eux, même pour ceux qui n'auront pas gagné de prix, même si on a quand même la chance d'avoir quatre prix à remettre à ces jeunes réalisateurs. Donc on espère que ça fera vraiment une belle séance.
Vous avez perçu des évolutions en 13 ans sur les thèmes qui reviennent ?
Oh, oui, évidemment, l'industrie change beaucoup dans la région, et je pense qu'elle se solidifie énormément. On a des pays qui ne produisaient rien du tout il y a 10 ans et qui aujourd'hui sont des incontournables, notamment les pays du Golfe. Là, on a un film Bahreïni, dont le festival a fait les sous-titres d'ailleurs. Donc, on a la possibilité de découvrir ce film grâce au festival. Et le Bahreïn avait vraiment très peu de films à proposer. Mais on a aussi des films qataris, on a des films saoudiens qui sont de plus en plus nombreux. Donc, évidemment, il y a une industrie qui se développe. Mais par ailleurs, même dans les pays qui avaient connu déjà une vraie cinématographie, comme le Maghreb par exemple, on a des évolutions assez intéressantes, et notamment on a de moins en moins de drames sociaux et de plus en plus de films de genre par exemple. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on interroge pendant le festival. On a une séance dédiée au cinéma de genre, de fiction fantastique et de science-fiction. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très récent. Donc on est très content de pouvoir aussi témoigner de cette diversité dans le cadre du festival.
William, une dernière question. Ouais.
Oui, j'aimerais bien justement revenir sur ce point de la science-fiction, savoir pourquoi est-ce que c'était important pour vous de mettre en place cette nouvelle partie du cinéma. Enfin,
parce qu'elle est vraiment, parce qu'elle émerge. En fait, on le voit. Bon, là, on le voit. C'est de la séance qui est proposée dans le cadre du festival, c'est une séance de court-métrage, avec des court-métrages qui sont plus ou moins récents, puisqu'on a aussi le court-métrage de Larissa Sansour qui a été fait il y a plus de 10 ans, cinéaste palestinienne, qui questionne par le biais de la science-fiction l'état de la Palestine et l'histoire future de la Palestine, de comment on va pouvoir gérer cette mémoire d'un pays qui est complètement effacé de la carte et des récits. Mais en fait, finalement, il y a cet intérêt pour le fantastique, ce regard vers le futur un peu dystopique, c'est quelque chose que l'on retrouve un peu partout, et même dans des films qui sont sortis en salle en France récemment. Je pense à Animalia de Sofia Alaoui, par exemple, qui est sorti l'année dernière, ou à d'autres films comme ça qui essayent vraiment de nous plonger dans un univers entre le drame social et le drame fantastique. Et cette tendance-là, j'avais envie de la mettre à l'honneur, parce que finalement, je pense qu'elle va être de plus en plus prégnante, et qu'elle est par ailleurs passionnante philosophiquement et aussi esthétiquement.
Parce qu'elle soulève pas mal d'interrogations. C'est à Noisy-le-Sec, ce festival du film franco-arabe. Est-ce qu'on a un endroit, un site web où retrouver un peu toutes les projections ?
Et ben, vous retrouverez tout le programme sur le site de Noisy-le-Sec, mais aussi sur le site du cinéma Le Trianon, et évidemment sur les réseaux sociaux qui sont qui sont animés au jour le jour par l'équipe de Noisy Sec et qui permettront de suivre toutes les projections, puisqu'effectivement cette année on est vraiment pas seulement à Noisy, on est vraiment on a beaucoup dehors les murs en fait, et ça j'espère qu'on pourra retrouver des publics un peu dans toutes les salles, parce que c'est aussi
et on incite fortement les auditeurs intéressante dehors les gens circuler. Les dates, juste pour rappeler les dates aussi.
On rappelle des dates, on a du 15 au 30 novembre et le Trianon du 20 au 24. Merci Mathilde Rouxel pour nous avoir fait part de votre présence ce soir.
Ouais, merci d'être passé dans la matinale. Et là, c'est bon, le rendez-vous, je pense qu'il est pris. Vous écoutez la matinale de 19h et on revient après Swing qui chante No Future.
Rien à fêter, mais on danse quand même. Nuages forment des signes étranges dans le ciel. Ouais, j'ai croisé quelques diables sans corps. Ouais, j'ai croisé quelques anges sans ailes. S'il te plaît, réveille-moi si je m'endors. Ça sera pas grâce à toi si je m'en sors. Ouais, j'ai croisé quelques diables sans toi. Ouais, j'ai croisé quelques anges. Après gros l'arsène, raison contre Dimmy Colasin. À part sur scène, je fais plus trop la fête. Petit, je rappais par cœur sur la pleine. Depuis, j'attends que les dollars pleins. Pour être dit, bien sûr qu'il faut la somme. Mais j'ai jamais rêvé de trop la fête. La chance est une jolie carte qui rentre dans ta life, puis disparaît comme un doliprane. Phare éteint, bolide noir, on chante la mélancolie de l'âme. J'aime voir la flamme danser dans tes yeux quand la folie me gagne. Nos pieds le même bitume, nos pieds le même bitume. L'espoir nous mène la vie dure, prends le liquide comme la pilule. Je terrasse sur nos futurs, mais infiltré fait bonne figure. Terrasse sur nos futurs, je terrasse sur nos futurs. Rien à fêter, mais on danse quand même. Nuages forment des signes étranges dans le ciel. Ouais, j'ai croisé quelques diables sans corps. Ouais, j'ai croisé quelques anges sans ailes. S'il te plaît, réveille-moi si je m'endors. Ça sera pas grâce à toi si je m'en sors. Ouais, j'ai croisé quelques diables sans corps. Ouais, j'ai croisé quelques anges.
On sera d'accord ou pas avec moi, mais je pense que Damso est passé par la No Future de Swing. Il est 19h54, vous écoutez la matinale de 19h de Radio Campus Paris sur le 93.9 FM et en DAB+.
La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
J'ai un mot à dire, Juliette.
Ah, ok, super.
Ben voilà.
Ok, bon, salut à tous et à toutes. C'est ma première chronique ici, alors je tenais à me présenter. Je m'appelle Juliette. Voilà, ça fait court comme présentation ? Ouais, peut-être. Bon, en tout cas, là, je suis en train de réaliser un rêve, je vous jure, c'est mon rêve d'être ici et de faire une chronique. Et quand j'ai dit à mes potes que je venais faire une chronique ici, ils m'ont dit « Eh, Jules, t'as pas 10 balles à des pannes ?» Ah non, ça, c'était pour autre chose. Non, pardon. Ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu vas raconter ?» Et ça, c'est une bonne question. Du coup, je leur ai dit « Mais dans quel monde j'ai 10 balles, frère ? Toi, t'as pas 10... » Ah non, la chronique, pardon, non, la chronique. Excusez-moi. Bon, alors du coup, je sais pas trop ce que je vais faire, mais sûrement de l'impro. Par exemple, vas-y, Fabrice, donne-moi un thème. Est-ce que tu peux me donner un thème, Fabrice, d'impro ?
Des bananes.
Super. Ma présentation. En plus de m'appeler Juliette, j'ai envie de faire des blagues dans la vie. C'est tout. Et donc, récemment, j'ai commencé à jouer un peu dans les cafés-théâtres, des comédie-clubs, mais c'est assez compliqué parce que je déteste le stand-up et avoir la sensation de mourir, c'est je ne suis pas drôle. Bah alors, qu'est-ce que tu fous là? Bah, je m'étais dit que peut-être la bière, elle serait gratuite. Et même pas. Grosse déception. En plus, en ce moment, je suis à la recherche d'un logement et donc je dors un peu à droite à gauche chez des potes par-ci par-là et c'est super compliqué d'écrire quand t'es SDF. Bon, plein d'autres trucs sont compliqués, bien sûr. Faire caca chez les potes, devoir être sympa, sentir bon, etc. Mais le pire, c'est d'apprendre les textes alors que déjà, j'ai tous les digicodes à retenir. Surtout que mes transitions, elles sont hard à retenir parce qu'elles sont super absurdes. Et c'est pour ça que je me suis retrouvée à péter sur mon chien. 85B32. 85B32. Par applaudissement, qui a déjà réussi à avaler une boîte de Doliprane sans crever, à part ma co-autrice? Bon, je vous laisse imaginer la réaction du public avec un digicode en plein milieu de la phrase. Bon, la chronique. Allez. Bon, le bon côté des choses, c'est que moi, j'ai toujours réussi à trouver des copains chez qui dormir. Ce qui n'est malheureusement pas le cas de tout le monde. Pour rappel, cette année, il y a eu près de 300 000 personnes sans domicile fixe en France. 300 000, ça fait 3 fois 100 000 personnes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est énorme. Attendez, ça fait environ 98% de la population. Je sais pas si vous en rendez compte. Bon, après, à mon entrée chez Radio Campus, on m'a pas demandé mon bulletin de mathématiques de lycée. De toute façon, je ne suis pas allée au lycée. Et en fait, ils avaient raison, les profs. Faut travailler à l'école, sinon tu te retrouves sans logement à faire des chroniques dans une radio bénévole. Blague. Allez lui demander au gamin qui sait pas si ce soir il va manger au moins une patate s'il en a quelque chose à foutre d'avoir mention très bien à son bac de maths. Bon, d'accord, je sais ce que vous vous dites, gna gna gna, elle est SDF parce qu'elle a pas eu de patate quand elle était petite. Erreur, moi c'est juste que je veux faire des blagues et bah, ça prend du temps quoi. Mais parce que moi j'ai la chance de trouver au moins une chose pour laquelle je suis prête à me battre, c'est que ce n'est pas forcément le cas des 6 fois 50 000 personnes qui dorment dans la rue. Et ça, ça fait réfléchir. Être à la rue, c'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de vouloir avoir une place décente dans la société, penser qu'on peut apporter quelque chose et s'il y a autant de gens qui pensent que non, c'est parce qu'on a merdé quelque part. Mais où ? En attendant de savoir comment le dire de manière drôle, je vais continuer à péter sur mon chien. Merci à tous.
Oui, on se demande vraiment qui est-ce qui a merdé. Merci à toi, Juliette, pour cette chronique qui clôt la matinale pour ce soir. Oh là là, on est synchro, c'est un truc de dingue, 19h58. Pêle-mêle, merci à Alice, Joe et Juliette, Léa, Maïwen, Willem pour vos rôles respectifs. L'équipe de la matinale de 19h vous retrouve jeudi et non pas demain. Demain, très exceptionnellement à la même heure, retrouvez de la passion à l'entrepreneuriat. C'est une émission d'une heure avec Radio Campus Paris. Les autres matinales sont disponibles sur radiocampusparis.org. 19h58, tout de suite le lobby. Comment ça va, Colin?
Bah, ça va super, et toi, Fabrice?
Bah, ça va, grande forme. T'as raté la matinale, mais il s'est passé des trucs de dingue.
J'avais une émission à préparer, Fabrice. J'écouterai le podcast sur radiocampusparis.org.
Bah, écoute, avec plaisir, n'hésite pas, tu verras, tu vas te faire plaisir. De quoi est-ce qu'on parle ce soir?
Bah, ce soir, dans le lobby, votre rendez-vous queer radiophonique, il y aura des Gwyn, comme s'il en pleuvait. Gwyn, c'est le nom du dernier ouvrage collectif de Tédition Point. Deux de ses autrices sont avec nous, et en deuxième partie, Zoom sur Chéri Chéri, le festival du film LGBTI+, de Paris. Et puis au programme aussi, l'élection de Donald Trump qui inquiète la communauté LGBTI+, états-unienne.
Et on se demande pourquoi. Mais oui, je reste avec vous, ouais, parce qu'en fait, à 21h, je reviens, je serai avec Elodie au Pays des Rêves.
Tout le temps,
H24. Mais voilà, Colin, écoute, il va falloir me supporter encore un petit moment. 19h58, 28 secondes. Allez, Colin, prends cette place-là. Je vous retrouve très vite. Ciao.
Salut.